continuer notre méditation sur la formule bonne année. Voilà, oh là, j'ai l'impression que là c'est la langue qui est paralysée par le gel. Estelle, pardon, tu veux bien mettre. Merci beaucoup. On a eu l'occasion de voir que effectivement cette expression bonne année a une origine très superstitieuse, mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, tu peux nous passer à l'étape d'après, nous avons le devoir, en tant qu'enfants de Dieu, de bénir au nom de Jésus. C'est notre appel. Bénissez au contraire, car c'est à cela que vous êtes appelés. Alors nous avons eu l'occasion qu'au nom de Jésus-Christ, il y a effectivement ces formulations que nous pouvons faire par rapport à la paix, à la joie. Amen. Et c'est vraiment en Jésus-Christ qu'il y a une vraie joie, un vrai bonheur, une vraie paix. C'est vraiment en Jésus-Christ qu'il y a véritablement une espérance. Dieu est l'auteur de l'espérance. Nous avions vu également qu'il y a des promesses pour la santé. Amen. Un rafraîchissement pour les os, un ressourcement pour nos muscles. Il y a effectivement la semaine dernière la notion de la prospérité. Et là, nous avions vu qu'effectivement, la prospérité selon le monde n'est pas comparable à la prospérité selon Dieu. Non pas que ce ne soit pas la question de l'abondance, mais de la gestion de cette abondance. Dieu veut que nous soyons prospères, mais pas seulement d'un point de vue égoïste, mais dans cette dimension de la générosité, du partage. Et nous allons voir ce matin la notion de la réussite, du succès. Peut-être que vous avez reçu des vœux comme ça. Que cette année soit pour toi une année de réussite, de succès. Que tout ce que tu fais réussisse. Alors, je vous invite à une lecture dans Josué, chapitre 1er. Et nous allons lire les 9 premiers versets de Josué. Avons-nous la possibilité, nous aussi, de croire, d'espérer, de formuler, et je le rappelle, non pas une fois dans l'année, mais par la prière, régulièrement, dans la prière, avons-nous droit d'espérer à la réussite, au succès? Josué, chapitre 1er, et commençons par le verset 1er. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Noun, serviteur de Moïse. Moïse, mon serviteur est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, presque 1 million de personnes, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne. Comme je l'ai dit à Moïse, verset 5. Nul, c'est-à-dire personne, ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai, c'est Dieu qui parle, je serai avec toi, comme j'étais avec Moïse. Je ne te délaisserai point. Je ne t'abandonnerai point. Mais j'ai envie de dire, mais toi, fortifie-toi et prends courage. Car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré, que j'ai promis à leur père de leur donner. Fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi, la Bible, ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors, conjonction de coordination, conséquence, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas dit, ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point. Retire l'inquiétude, les doutes, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Amen. Ça va être là le passage clé fondamental et nous allons en voir bien davantage. Oui, Dieu a des désirs de réussite pour nous. De la même manière qu'il a pour son peuple des désirs de prospérité, il a des désirs pour chacune de nos vies, un désir, un souhait, celui que nous réussissions. Nous avons lu Josué et on voit le défi de cet homme. Il remplaçait Moïse. Lourde tâche, il devait avoir quelques appréhensions. Mais d'autres, il est parlé par exemple dans 1 Samuel chapitre 18 verset 14, il est écrit « Il réussissait ». Là c'était, il est parlé de David, il n'était pas encore roi. Mais il réussissait dans toutes ses entreprises et l'Éternel était avec lui. On a encore la même illustration en 2 Rois, chapitre 18, verset 7. Là, il n'est plus question de David, il est parlé d'un roi qui s'appelle Ézéchias, qui réussissait dans toutes ses entreprises. Et pourquoi? Parce qu'il est dit avant, et l'Éternel fut avec Ézéchias, et il réussissait dans toutes ses entreprises. En fait, ce que nous devons bien réaliser, c'est que cette notion de succès, de réussite, est liée à la présence de Dieu. Elle est liée, nous l'avons vu et nous aurons l'occasion de réaffirmer ces choses-là. Elle est liée à notre attachement à la parole de Dieu et à la présence de Dieu. Le monde, c'est vrai, quand il souhaite les vœux de succès, c'est quoi sa phrase? En gros, l'arrière-pensée. C'est « fais tout ce que tu veux, sois l'auteur de ta vie et dans tout ce que tu fais, que tu réussisses ». C'est ça la logique du monde. En gros, que tout ce que tu touches se transforme en or. Mais nous savons que dans le monde, l'homme est le chef de sa propre vie. Ses projets, ce sont ses projets à lui. Alors qu'enfant de Dieu, en tant qu'enfant de Dieu, notre succès, nos projets ne doivent pas être le fruit de notre réflexion personnelle. Ils doivent être le fruit de notre intimité avec Dieu.
Amen.
Qui est le chef de notre vie, nous-mêmes ou Dieu? Ce doit être Dieu. Et c'est là qui fait toute la différence. Dieu veut le succès dans nos entreprises. Amen. Mais Dieu veut qu'il soit le chef de nos projets. Dieu veut qu'il soit l'initiateur de nos projets. Dieu veut être l'inspirateur de nos objectifs, de nos mobiles, de notre consécration. Il veut que chaque matin, il soit l'objet de notre raison de nous lever. De notre raison d'aller à gauche, d'aller à droite, d'entreprendre. Le monde ne se soucie pas de Dieu. Il fait ce qu'il veut. Alors, dire « Oh, que le Seigneur te bénisse et que tu aies du succès !» Moi, j'aurais du mal à dire à un païen que tous tes projets réussissent. Je ne sais même pas ce qu'il a comme intention dans sa tête. Peut-être qu'il est en train de militer pour des causes qui veulent détruire l'Évangile et je vais lui dire « Oh, que le Seigneur te bénisse et que tu aies du succès !» Non, mais il faut être conscient de ce que l'on dit. Et c'est pour ça qu'enfants de Dieu, nous devons effectivement être aussi prudents dans nos manières de formuler nos vœux.
Amen.
Et les préciser que tu aies du succès dans les projets, dans le nom de Jésus.
Amen.
Dans les projets que Dieu a prévus, parce que Dieu a des projets pour nous. Amen. Il a préparé des œuvres bonnes. Donc s'il a préparé des œuvres bonnes, que nous rentrons dedans, il y a un projet pour Dieu de suite et de succès. Et je voudrais toutefois profiter de ce sujet pour aborder, pour élargir un peu la réflexion et dire ce que ne signifie pas le succès dans nos entreprises, même selon Dieu. On pourrait se dire, ah, le Seigneur me met un projet à cœur, je le fais avec enthousiasme, et puis là ça va être, paf, que du bonheur. Les projets selon Dieu, avec Dieu, le succès et la réussite avec Dieu ne signifient pas que cela se fera sans difficulté. Là, on a l'exemple de Josué. C'est même lui qui dit « Nul ne tiendra devant toi !» Quelqu'un me dit ça, je me dis « Voilà, ouais, c'est bon, là. J'ai juste à avancer, les ennemis vont tomber comme ça, comme des mouches sur mon passage. » Et pourtant, ça n'a pas été la réalité. Non pas que nul n'a pas tenu. Les ennemis ont été vaincus. Lorsque le peuple voulait bien combattre, d'ailleurs. Excusez-moi, hein. Mais il y a eu un combat. Il y a eu des morts. Il y a eu des cris, il y a eu des larmes. L'œuvre de Dieu ne se fait jamais sans difficulté. Les prophètes de l'Ancien Testament parlaient-ils d'eux-mêmes ou parlaient-ils au nom de Dieu ? Ils parlaient au nom de Dieu. Et des choses incroyables. Est-ce qu'ils vivaient une vie paisible et tranquille ? Le nombre de coups, de persécutions, certains sont morts à cause de ce message-là. Mais c'est le message de Dieu pourtant, oui. Mais l'œuvre de Dieu ne se fait jamais sans difficulté. Regardez, relisez, pour la reconstruction du temple, Néhémie, Esdras. Dieu est celui qui a été l'initiateur. Ça a même été prophétisé des siècles avant qu'à tel moment le peuple se lèverait pour construire mon temple. La prophétie s'accomplit. Mais que de combats! Il y a même eu un moment où ils se sont même arrêtés dans le projet. Mais pourtant, tu es bien Dieu, l'initiateur de ces choses-là. Oui, mais à un moment, il n'y avait plus rien. Pendant plusieurs 30 ans, je crois, plus personne ne construisait le temple. Mais pourtant, c'est bien Dieu qui a l'initiative de ça. L'Église. N'est-ce pas Dieu qui a dit « Je bâtirai mon Église ». Et le royaume, le séjour des morts, ne prévaudra pas, il ne gagnera pas. Alors nous, en France, on est tranquille, hein, l'Église de Jésus-Christ, on vit peinard. Mais allez faire quelques séjours dans deux pays étrangers. Et vous allez vous voir si le séjour des morts ne prévaut pas. C'est dur, hein. Allez en Corée du Nord, cherchez une église, vous allez finir dans une prison. Allez à gauche, allez à droite. Mais c'est vrai. Le séjour des morts ne prévaut pas sur l'église, elle est toujours vivante. Amen.
Au Seigneur. Amen.
Et le jour où le diable sera lui lié et enterré, la puissance de l'église se lèvera. Amen.
Amen.
Mais considérons que ce n'est pas parce que Dieu est l'initiateur d'un projet et qu'il nous dit tu auras du succès et tu auras de la réussite qu'il n'y aura pas entre les deux des difficultés, de l'opposition. Et c'est même logique en fait. Parce que l'adversaire de nos âmes, l'ennemi de nos âmes, il va tout faire pour entraver les projets de Dieu. Donc c'est même inévitable. Ce serait même presque suspect. C'est que tout allait trop bien. D'ailleurs, c'est Jésus qui le dit. Faites attention lorsque dans le monde on dira plein de choses trop bonnes de vous là. Méfiez-vous. Méfiez-vous. Et il est normal qu'il y ait de l'opposition, de la réticence, du combat, de la difficulté. Et je ne parle pas seulement du témoignage, mais de notre implication dans l'œuvre de Dieu. C'est deux choses différentes. C'est bien pour ça que la première qualité qui est demandée à un disciple, c'est quoi ? Rappelez-vous, quelle est la première qualité que Jésus...
Persévérance
et fidélité. C'est bon, c'est bien, serviteur. Tu as été fidèle. Fidèle. Et c'est pour ça qu'effectivement, la Bible nous invite à de la fidélité, à de la constance, à de la persévérance. Parce que si nous voulons faire les œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance pour nous, il y aura forcément de la difficulté. Le succès ne se mérite pas. Il s'acquiert. Amen. Par la grâce de Dieu, évidemment. La grâce de Dieu, le succès, la réussite ne signifie pas non plus que cela se fasse sans renoncement. On pourrait dire, c'est bizarre. Parce qu'on pourrait se dire, ouah, c'est formidable. Quand le Seigneur me met quelque chose à cœur, ça va être tellement stimulant que je vais avoir envie de le faire, mais en fait, pas du tout. C'est vrai que nous, quand on a des projets, on est super... Hein, on est tout feu, tout flamme, on a envie, on est pressé. Quand on a envie de faire quelque chose, on est tout excité, quoi. On est un peu au-dessus. Ce qui nous tracassait avant, ça nous tracasse plus. On est motivé par notre projet. À part que Galates, chapitre 5, verset 17, nous dit que la chair a des désirs qui sont contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit... on a de contraire à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que nous ne fassions pas ce que nous voudrions. L'Esprit de Dieu nous met dans des situations pour que nous ne fassions pas ce que nous voudrions. C'est pas très gentil, c'est pas mieux. Quand l'homme a un projet, quand nous avons un projet humain, qui n'est pas forcément mauvais, nous sommes très motivés, très enthousiastes. Mais en tant que disciples, en tant que temple du Saint-Esprit, en tant que représentant de Dieu, en tant qu'hommes et femmes qui avons décidé de ne plus vivre selon la chair, mais selon l'Esprit, c'est l'Esprit qui va initier des projets dans notre cœur. Et lorsque l'Esprit initie des projets dans notre cœur, la première réaction, c'est une réaction d'opposition en nous-mêmes. Il y a un combat. On commence à dire, oh non, pas moi. Je ne sais pas comment a réagi Josué lorsque Dieu a dit, c'est toi qui vas remplacer Moïse. Mais on peut comprendre qu'il y ait une petite appréhension. Attends. Moi, je t'aime, Dieu, mais oui, j'étais avec Moïse, mais de là à le remplacer, non, attends, t'as vu tout ce qu'il a supporté, Moïse? C'est pour ça que Dieu va lui dire, fortifie-toi. J'ai un projet pour toi, il y aura du succès, mais je te le dis, toi, fortifie-toi, prends courage. Mais bien aimé, lorsque l'Esprit de Dieu réveille votre cœur pour un projet, lorsqu'il vous secoue, lorsqu'il vous interpelle, il est tout à fait normal que vous ressentiez au-dedans de vous comme un combat. Non, pas moi. Tout sauf ça, Seigneur. Oh non, moi je veux bien te servir, Seigneur. D'ailleurs, vous l'avez sûrement tous dit dans votre prière personnelle un jour. Seigneur, je te donne mon cœur. Seigneur, je te donne ma vie. Et lorsqu'on est visité, rempli, alors là, on lui dit, on lui tient toutes les promesses du monde. Hein. Oh, Seigneur, tout ce que tu veux. Oh oui, Seigneur. Alors, dans ce moment, le Seigneur nous laisse parler. Et puis, à un moment, il nous parle, il dépose quelque chose, là, toute délicatesse dans notre cœur. Et là, on commence à dire, oh non, Seigneur, oh non. Oh non, pas maintenant. Oh, c'est pas le moment. Oh, pas ça. Oh, appelle quelqu'un d'autre. Mais je suis pas capable. Oh, mais tu sais que moi, ça, j'aime pas ça. Ne cherchons pas à faire ce que nous voulons, mes bien-aimés. Cherchons à faire ce que le Seigneur nous demande de faire. Alléluia. Ah, mais moi, j'aime pas les enfants, me disait quelqu'un. Pas de problème. Et quand le Seigneur l'a mis au pied du mur, alléluia. Parce que c'est là qu'on s'est aperçu qu'il y avait quelque chose de cette personne vis-à-vis des enfants. Et on pourrait ainsi multiplier les exemples. Le succès, la réussite ne dépend pas de nos projets, de notre motivation, ni de nos capacités. Le succès, la réussite dépend de notre obéissance à la volonté de Dieu et à sa présence. Amen. Et si nous voulons faire les œuvres de Dieu, si nous voulons être agréables, si nous voulons lui obéir, alors apprenons à distinguer notre volonté et la volonté de Dieu et acceptons de faire la volonté de Dieu. Et c'est sûr, je vous le dis, je vous prépare, il va falloir renoncer à nous-mêmes. Parce que là où Dieu va nous donner du succès, c'est justement là où on a toujours dit non, pas moi, je ne suis pas capable. Depuis toujours, je sais que ce n'est pas ma place. Oh non, ça, je ne peux pas, je ne veux pas. Et là, il y a tout un combat, mais ça ne sert à rien de combattre. Dieu nous appelle au renoncement. Si quelqu'un veut me suivre, qu'il se charge de sa croix, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Nous sommes appelés à comprendre que le succès, la grâce, la réussite que Dieu nous demande d'avoir et qu'il prévoit pour nous passera forcément par une étape de renoncement. Et je comprends que Dieu ait vraiment dû insister auprès de Josué pour dire « Allez, prends courage !» Allez, si seulement tu prends courage et que tu te secoues, ça va aller, allez. Et c'est vrai qu'il y a besoin aussi, de notre part, de nous secouer et d'accepter de faire ce que le Seigneur nous demande de faire. La réussite, le succès, conduit par le Seigneur, ne signifie pas non plus que le résultat sera celui que l'on espère. Je pense qu'il n'y a pas un prédicateur au monde qui n'ait pas espéré avoir un minimum de succès comme Pierre à la première prédication. 3000 âmes, 3000 conversions. Quel prédicateur ne prêche pas pour que le monde entier soit sauvé? Sinon, il irait autant rester chez soi. Et j'espère que quand vous parlez à une âme, c'est pas seulement histoire de lui gaver la tête, mais vous espérez que son âme soit sauvée. Sinon... Est-ce que toutes les âmes à qui vous avez parlé ont été sauvées? Est-ce que vous avez mal fait?
Non.
Vous avez bien fait. Il faut comprendre que ce n'est pas parce que le Seigneur nous parle de réussite, du succès, que le résultat sera celui que l'on espère. Et là, souvent, il y a un petit décalage entre les deux. Ésaïe 55, verset 8 dit « Mes pensées ne sont pas vos pensées. Vos voix ne sont pas mes voix. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix. » Ça, c'est si on n'avait pas compris la différence, là, il met une échelle. « Et mes pensées au-dessus de vos pensées. » Parce que nous, humains, avec une vision bien étroite, hein, déjà, sur la, quand on regarde là, on ne voit pas très très large. Et puis en plus, quand on va loin, on ne voit pas très très loin. Mais Dieu a une vision... Non seulement il connaît avant, il connaît après, il connaît le moment, il connaît les conséquences de toute chose. Mais nous, on ne voit pas tout ça. Mais on est tellement intelligent que nous, on réfléchit tout par rapport à ce qu'on voit. N'est-ce pas? On est tellement fort, tellement intelligent. Alors nous, on fait quelque chose souvent dans une finalité. Quand on reprend l'exemple, par exemple, du témoignage, on donne un prospectus à quelqu'un et notre désir, c'est qu'il soit sauvé. Et puis s'il part comme ça, on continue de prier pour lui, pour elle. Puis au bout de 2-3 semaines, on finit un peu par l'oublier et puis on se dit, bah tant pis Seigneur. Enfin, on se dit pas ça. Mais souvent, on a une finalité. Je donne un prospectus, je veux que cette personne soit sauvée. Mais est-ce que vous connaissez le chemin du prospectus, vous? Eh non. Moi, j'ai travaillé plus de 10 ans dans l'évangélisation. Je ne pourrais pas vous dire les dizaines de milliers de prospectus que j'ai distribués. Vous savez combien d'âmes sont venues au Seigneur? Zéro. Alléluia! Zéro, bah, avec mon calcul à moi, avec mon regard à moi. Mais j'ai hâte d'être au ciel.
Amen.
Et Benoît, oh Benoît, regarde tous les prospectus. Bon, il y en a quelques-uns qui sont passés à la poubelle, mais regarde là. Et même s'ils sont passés à la poubelle entre deux, Dieu s'est servi de ça pour interpeller quelqu'un. Et on a été à notre place. Nous ne savons pas. Nos comptes ne sont pas les comptes du Seigneur. On l'a déjà lu ici, vous savez, ce vieux monsieur aux cheveux blancs qui pendant des années a distribué des prospectus dans les rues de Sydney. Toute sa vie, il avait distribué des prospectus. Jamais il avait vu une âme se tourner vers lui. Et c'est quelques jours avant sa mort que quelqu'un finit par le rencontrer et lui expliquer toutes les âmes qui ont été sauvées par lui. Et ces âmes-là ont eux-mêmes été des missionnaires, des envoyés dans le monde entier. Et cet homme, à la veille de sa mort, il entend ces choses-là. Nos voix ne sont pas les voix du Seigneur. Un homme, un prédicateur, un évangéliste, va dans une région aux États-Unis. Il prépare un camp d'évangélisation, une session d'évangélisation, je ne sais pas comment il s'appelle, pendant 7 jours. Et une réunion d'évangélisation. Alors il va. Oh ! Première soirée, combien de conversions ?
Zéro.
C'est pas grave, au nom de Jésus ! On chasse les démons ! Deuxième réunion ! Zéro. Troisième, quatrième, toujours rien. Seigneur, qu'est-ce que je fais là? Bon, j'étais pas là, j'imagine ce qu'il a pu se dire. Hein. Cinquième, sixième, septième jour. Bon, il y avait bien à la fin de ce camp-là, un jeune homme qui était là, il prie pour lui, donne son cœur au Seigneur. Mais j'imagine la souffrance de ce prédicateur. Sept jours, il prêche l'évangile, rien que ni. La déception. À part que le jeune homme pour qui il a prié, il s'appelait Billy Graham. Et Billy Graham était un instrument de bénédiction pour toucher des millions d'hommes que lui-même, en 7 jours, il n'aurait jamais pu toucher. Amen. Nos voix ne sont pas les voix du Seigneur. Les pensées du Seigneur ne sont pas les nôtres. Nous avons nos chiffres, nous avons nos évaluations, mais Dieu a ses chiffres, Dieu a ses évaluations, Dieu a ses plans, ses projets. L'œuvre de Dieu, le succès, la réussite de Dieu a des résultats qui sont autres que nos espérances. Mais cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas de succès. Cela ne veut pas dire qu'il y a de la réussite. Le succès et la réussite, il n'y a que le Seigneur qui sera capable de l'évaluer.
Amen.
Et ce sera au ciel qu'on fera les comptes, au ciel seul. Que Dieu nous bénisse. De temps en temps, on regarde le temps et on se dit, non, mais c'est du temps perdu. Il y a des fois, on évalue notre vie, on dit, c'est gâché, c'est perdu. Mais Dieu regarde notre temps peut-être comme un temps de préparation, un temps de formation.
Amen.
Nous sommes là à regarder l'heure, à compter, à évaluer. Je pense que Moïse dans le désert, il a dû se dire, c'est du temps perdu, non, 40 ans. C'est pas du temps perdu, c'est un temps de préparation. Ne regardons pas le succès et la réussite comme les autres. Faisons même attention. À Jésus aussi, on a proposé le succès et la réussite, non? L'or et l'argent appartiennent à qui?
À l'Éternel.
À l'Éternel, et entre deux, c'est le Seigneur, c'est le diable qui a mis la main dessus. Et je rappelle la tentation de Jésus dans le désert. Si tu te prosternes devant moi, je t'offrirai toutes ces gloires, parce que toutes ces choses m'appartiennent. Il les a volées, on est d'accord, mais il les donne à qui il veut. Mais faisons attention de ne pas évaluer le succès et la réussite en fonction des gloires dans ce monde. Alors c'est vrai, oui. Il faut le reconnaître. Même dans le milieu évangélique, et béni soit Dieu. C'est vrai qu'il y a des hommes que Dieu a choisis et qui ont, on va dire, un ministère béni. Il y a des milliers d'âmes, ils ont des grandes églises. Du merci Seigneur pour ceux. Mais je crois qu'ils ne font que ce que le Seigneur leur a demandé de faire, c'est tout. C'est pas eux qui sont spéciaux, c'est le Seigneur qui est spécial et qui se sert de quelques instruments spéciaux. On a tout dans notre boîte à outils, quelques vis, quelques clous ordinaires et puis quelques outils spécifiques, n'est-ce pas? On va pas se servir du marteau aussi quotidiennement que, je sais pas, notre perceuse. Ou inversement. Et il y a des outils spécifiques. À vue humaine, il se pourrait même qu'on parle d'un temps d'échec dans notre cœur. Comme ce missionnaire là qui avait là annoncé l'évangile dans une tribu. Et il est comme un pionnier, il s'était carrément installé dans le village, il vivait avec eux. Et bien sûr, son désir c'était de partager le message de l'évangile, de leur faire connaître le Seigneur Jésus. Alors il s'installe une année, des années passent, et cet homme meurt sans aucun disciple. Échec, gâchis, temps perdu. Est-ce qu'il était à bonne place? Et quand quelques années après, d'autres missionnaires sont arrivés, qu'ils ont commencé à leur parler de cet homme qui était bon, de cet homme qui était capable de changer les vies, de cet homme qui a porté secours aux veuves, aux affligés, de cette personne qui imposait les mains aux malades et qui était guéri, de cet homme qui a accepté de mourir. Mais on connaît cet homme! Comment ça, vous connaissez cet homme? Oui! Quelques années, il y avait un homme qui était au milieu de nous. Il était dévoué, il priait pour nous. Il y a même eu des guérisons, etc. Et cet homme est mort. Mais celui que vous parlez, on le connaît. Ah, mais nous, on ne vous parle pas de ce monsieur, on vous parle de Jésus. Mais c'est vrai que le missionnaire que vous avez connu était le reflet de cet homme. Oh, mais qui est-il? On voudrait encore l'accueillir. Il s'appelle Jésus. Et ce village entier s'est converti. Amen.
Amen.
Ne regardons pas les choses comme si c'était un échec. Est-ce que tu pourrais mettre la diapo après? Un homme a dit, un échec n'est pas quelque chose de négatif. C'est juste un événement différent de celui prévu. Et combien de fois est-ce qu'on évalue une chose par rapport à ce à quoi on espérait, et comme la chose ne s'est pas passée comme on espérait, on va parler d'échec, de déception, de frustration. Mais l'échec, selon Dieu, c'est pas ça. Si nous faisons les projets que Dieu a mis dans notre cœur, si nous sommes fidèles à sa parole, si nous demeurons attachés à sa propre personne,
amen,
peut-être qu'effectivement le résultat ne sera pas celui qu'on espérait. C'est vrai. D'où un échec n'est pas quelque chose de négatif, c'est juste un événement qui est différent de celui qu'on a prévu. Et Dieu peut même permettre des échecs dans notre vie.
Amen.
Pour nous remettre en cause,
oui.
Pour nous réformer, pour nous humilier. Pardonnez-moi de le dire, on a besoin d'être humilié. Dieu peut permettre des échecs. Non pas le péché, hein. Il y a une différence. Hein. On fait la différence, hein. C'est comme la dernière fois, quand on avait prêché sur l'épreuve et le péché, c'est deux choses différentes. Dieu peut permettre l'échec, qui pour nous, pour qu'on le considère comme un échec. Mais lui, c'est pas un échec, c'est juste son plan. C'est juste son projet, afin de nous faire réfléchir. Paul a eu des divergences avec quelques ministères, et cela a multiplié les missions d'évangélisation. Quand il s'est séparé avec Barnabas, hop, c'était plus une équipe, c'était deux équipes d'évangélistes. Alléluia! Lorsqu'il a été orienté dans ses voyages, empêché par le Saint-Esprit d'aller à tel endroit, oh ben mince, moi je voulais y aller! Oh, c'est un échec, oh, ben je retourne à la maison. Non, non, c'est pas la maison qu'on te demande d'aller. On prend un autre chemin, tout
Amen.
Simplement.
Amen.
Le Seigneur nous aide à considérer le succès non pas par rapport à ce que nous évaluons. Dieu veut notre réussite, Dieu veut notre succès. Mais ce qu'il veut surtout, c'est que nous soyons collés à sa parole.
Amen.
Collés à sa personne. Et c'est comme ça que je voudrais compléter la notion de la réussite avec la notion de la bénédiction. Parce que c'est vrai que quand on parle de succès, de réussite, alors on se pose toujours sur une évaluation humaine. Et oui, on est obligé, nous humains, de parler de chiffres, de résultats, de succès par rapport à quelque chose. Mais lorsque la parole de Dieu nous parle de succès, de réussite, elle ne nous parle pas en chiffres, en nombres. Même s'il y a aussi, dans certaines situations, du chiffre, du nombre, de la prospérité, comme on l'a vu la dernière fois. Mais il y a avant tout ce que j'appellerais la bénédiction. Dans ce monde, et j'ai envie de dire, même chez quelques chrétiens, mais je dirais avec une approche très superficielle, on appelle bénédiction le fait que Dieu nous fasse du bien. Voilà. Comme Dieu me fait du bien, je suis béni. J'ai mon cornflakes le matin, j'ai de l'eau chaude, j'ai ma voiture, wow, elle est trop belle ma voiture, je suis béni. Mon salaire est tombé à la fin du mois, j'ai un petit bobo, j'ai un doliprane, je suis béni. Mais la bénédiction pour le chrétien, pour celui qui a Christ en lui, ce n'est pas ça la bénédiction. Le psaume 73 verset 28 dit: pour moi m'approcher de Dieu, c'est mon bien.
Amen.
C'est ma bénédiction. Alléluia. Ma bénédiction, c'est pas le soulagement. Ma bénédiction dans ma vie, c'est la présence de Dieu.
Amen. Amen.
Et dans ce monde, il y a une grande différence, parce qu'il y a dans le monde des gens qui sont bénis d'un point de vue matériel, mais qui sont sans Dieu.
Oui.
Il y a des enfants de Dieu, ils s'en prennent plein la tête, mais ils ont la bénédiction parce que Dieu est avec eux. Dans les difficultés, dans les déceptions, dans les échecs humains. Comprenez maintenant les parenthèses, les guillemets que l'on peut mettre sur ces mots-là. Mais ils ont la présence de Dieu dans leur cœur. Je vous souhaite d'être malheureux matériellement et béni spirituellement plutôt que l'inverse. Parce que la véritable bénédiction, c'est la présence de Dieu. Je voudrais vous donner une parabole pour illustrer la chose. Imaginez que vous cherchez un lit pour votre maison. Alors vous en discutez avec votre épouse, avec votre époux. Bon, lui, il a un peu moins d'idées, mais bon. Alors vous dites: ah, le lit, il faudrait qu'il soit comme ça, et puis en plus avec la commode, il faudrait qu'il ait cette couleur-là, puis il faudrait qu'il ait ça. Alors voilà, on s'imagine le lit qu'on veut acheter, n'est-ce pas? On n'est pas encore dans le magasin, que déjà... on se fait une petite idée, on fait avec le magazine et tout. Mais on trouve pas, alors on va aller. Vous allez dans un magasin, et dans ce magasin, il s'appelle Diabolo Magasin. Ah, vous y allez, il y a plein de lumières, sympa. Venez, pas cher, on s'adapte à vos besoins, vous rentrez dans ce magasin. Oh, et là, vous trouvez le lit que vous vouliez. La couleur, la forme, tout. Trop, trop bien. Mais le lit que vous rêviez, quoi. Waouh, chérie, c'est celui-là, regarde. Oh, il y a même ça, on n'avait même pas pensé à ça. Trop bien le lit. Il est dans vos moyens. Le gars, il est là, commercial, pas de souci, on peut vous le livrer et tout. On peut, oui, oui, oui. Il y a juste à signer, signez là, il n'y a rien, ne vous inquiétez pas, c'est le prix là, prenez. Et là, vous dites: oh, mais c'est trop bien, vous êtes excité, vous êtes tellement exalté que vous ne regardez pas trop. Tu vois, il y a plein de petites feuilles, tu vois, des bouts de papier qui sont rajoutés et tout. À part que dans cette petite note, il est écrit: lit en échange de votre sommeil. Bon, quand vous avez une femme raisonnée, elle dit attends, on va regarder dans l'autre boutique, on sait jamais. Dans l'autre boutique, vous y allez, là c'est écrit le royaume de Dieu. Ah tiens, c'est bizarre comme nom. Alors vous rentrez. Vous trouvez pas vraiment de lit. Bon, il y en a bien qui vous intéresse, mais vous savez, il est pas aussi bien que ce que vous aviez imaginé dans vous-même. Ouais, il est dans vos prix, peut-être un peu plus cher, en plus. Mais là-dessus, c'est écrit sommeil garanti.
Amen.
Qu'est-ce que vous voulez choisir? On est d'accord? C'est la différence entre le succès. C'est ça qu'on veut. Nous, on voulait ça. C'est exactement ça. C'est notre projet. Ça rend le pile-pète. Peut-être que vous allez le faire, mais vous allez perdre votre sommeil. Ça sert à rien d'avoir un super lit si vous n'avez pas le sommeil, vous savez. Faut mieux avoir un petit lit, là, qui s'accorde un peu moins avec la bonne tierne, mais dans lequel vous dormez comme des bébés.
Amen.
Commode, ouais, bonne tierne, je sais pas comment dire. Ça, pour vous rappeler une chose capitale, c'est que le plus important dans nos projets, ce n'est pas la réussite, ce n'est pas le résultat. Le plus important dans nos projets, c'est qu'il y ait la présence de l'Esprit de Dieu. Quand nous avons une recherche, un projet, une réflexion, un avenir, quelque chose sur lequel nous voulons nous projeter, ce n'est pas le salaire qu'il faut regarder, ce n'est pas le confort, ce n'est pas savoir si ça vous convient ou si ça ne vous convient pas. Ce qui est important de savoir, c'est est-ce que dans ce projet-là, je vais pouvoir continuer à chercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Parce que toutes les autres choses nous seront données en plus. Moi, si je veux un lit, c'est pour dormir dedans. Si je prends un lit et que je n'arrive pas à dormir dedans, j'ai manqué le but. Je serais peut-être super content d'installer mon lit et super enthousiaste d'y être. Mais une fois que j'y serai, je m'apercevrai que je me serais trompé. La première bénédiction que nous devons trouver et réaliser la bénédiction, c'est la présence de Dieu. Et ne faisons aucune négociation sur les valeurs du royaume de Dieu. Parce que quand Jésus nous dit « Cherchez premièrement le royaume de Dieu », c'est quoi ? C'est la vérité, la justice, le fruit de l'esprit, c'est la paix, c'est la joie, c'est la vérité, c'est la bonté, c'est la grâce, c'est l'honnêteté, c'est la bienveillance, c'est la vie de l'Église, pardonnez-moi, ça en fait partie de la vie de l'Église. C'est l'attachement à la parole de Dieu, c'est tout ça, c'est la piété. Et si vous recherchez une chose, si vous avez un projet, et que dans ce projet, vous êtes obligé de négocier un des aspects de ce royaume de Dieu, vous sortez de la bénédiction.
Vérité.
Ne faisons pas de compromis.
Amen.
Ne faisons pas, là, dire, mais il est tellement bien ce lit. Non, tout compte fait, je préfère ce lit parce qu'il est tellement beau. Mais tu es en train de passer à côté de la bénédiction, seulement parce que tu te laisses éblouir. J'ai connu dans une église deux personnes qui tenaient deux magasins différents. L'une vendait des bijoux de fantaisie. Et l'autre s'était impliquée dans la restauration rapide. Les deux étaient dans la même église. Les deux étaient investis dans l'église. Les deux étaient dans leur business, dans leur boutique. Et pour les deux, la situation financière était difficile. Une a décidé de s'investir un peu plus dans son travail. Avec toutes les implications que ça devait. Ben on va peut-être essayer d'ouvrir le dimanche. Ah, excusez-moi, je ne peux plus m'investir dans ce service. Ah, pardonnez-moi, il faut que je fasse ça. Et cette personne a perdu des caractéristiques du royaume de Dieu dans sa vie. Parce qu'elle négociait de plus en plus, espérant avoir le succès dans son entreprise. Jusqu'à ce que ne plus vivre de grand chose. Et quand je lui rendais visite, ah oui, on parlait de l'espérance de son succès, du business, des difficultés. Mais le Dieu, c'était juste à la fin de la phrase, histoire de dire, ah oui, mais ne vous inquiétez pas, j'oublie pas le Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. Tandis que l'autre sœur, qui avait cette boutique, pour qui c'était dur, a toujours conservé, premièrement, les caractéristiques du royaume de Dieu.
Amen.
Elle aurait pu même arrondir un peu ses fins de mois en acceptant de vendre des bijoux qui sont selon l'esprit de ce monde, mais elle refusait parce qu'elle considérait sa boutique comme le lieu de témoignage.
Amen.
Comme un lieu de rencontre, comme un lieu d'opportunité pour annoncer le message de l'évangile. Voilà la mentalité qui est différente. Elle refusait d'ouvrir tel ou tel parce qu'il y avait des réunions, parce que prioritairement le royaume de Dieu. Elle en a perdu peut-être de son confort personnel, mais elle n'en a pas perdu la bénédiction du Seigneur dans son cœur. Elle aimait le Seigneur, elle était investie et le Seigneur se servait d'elle pour gagner des âmes. Amen. Elle est où la bénédiction?
Je suis parti de cette assemblée-là. Le snack avait fermé. Et notre sœur continue à vendre ses bijoux.
Cherchons premièrement le royaume de Dieu, sa justice. Ne négocions pas la paix de Dieu. Ne vendons pas, ne bradons pas les valeurs du ciel. Ne négligeons pas la vie de l'Église pour des projets personnels. Nous allons manquer le but.
Et si je continuais sur l'exemple de tout à l'heure, cette femme en a perdu sa propre santé, elle a perdu son propre fils qui commençait à faire n'importe quoi. Quand on dit la petite illustration de tout à l'heure, Diabolo Market, et quand on commence à négocier les choses du royaume, le diable ne s'arrête jamais. Ne croyez pas que vous donnez juste un petit peu, oh, c'est rien, c'est juste une réunion. C'est plus qu'une réunion que vous vendez. C'est la bénédiction.
Et relisez Deutéronome 28. C'est dans le même chapitre qu'il y a les bénédictions et les malédictions. Dans le même chapitre. Et là, ça commence comme ça. Si tu obéis à la voix de l'Éternel, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris, ton Dieu te donnera la supériorité. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi, qui seront ton partage. Lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel, tu seras béni dans la vie, dans la campagne, etc., etc., etc. Dès que nous commençons à brader les valeurs du royaume de Dieu, c'est la malédiction qui commence à rentrer dans notre vie. Je ne cherche pas à faire peur, comprenez, hein, on n'est pas en train de vivre dans une notion superstitieuse. Hein. Mais si Christ est dans notre cœur, dans notre vie, alors nous sommes à la bonne place.
Amen.
Et lui va s'occuper du reste.
Alléluia.
Ne croyons pas que c'est nous avec nos petits calculs, nos petits raisonnements, notre limitation de vue. Ah oui, mais non, mais moi je sais, tu ne sais rien. Laisse le Seigneur, lui il sait, et obéit.
Amen.
Nous sommes appelés à être comme des enfants. Il y a un homme comme ça, Esdras, chapitre 7, verset 9. Il nous est dit que la bonne main de son Dieu était sur lui. Pourquoi? Car Esdras avait appliqué son cœur à étudier et à mettre en pratique la loi de l'Éternel et à enseigner au milieu d'Israël les lois et les deux ordonnances. Mes bien-aimés, je nous souhaite que la bonne main de notre Dieu soit avec chacun d'entre nous.
Amen.
Pour que la bonne main de Dieu soit avec nous et nous conduise dans ses projets et donc dans ses succès et dans ses réussites. Obéissons à la parole de Dieu. Ne faisons pas de compromis. Ne bradons pas le royaume de Dieu. Je vous en supplie. Nous sommes juste appelés à écouter et à obéir, à être fidèles et à lui faire confiance. C'est vrai, il va nous falloir user de persévérance, de patience, d'abnégation. Mais Jésus nous a prévenu tout ça, non?
Oui.
Persévérer. Si tu étais simple, il n'y aurait pas besoin de nous inviter à la persévérance. C'est la bénédiction de l'Éternel. Pas la bénédiction de quelqu'un d'autre.
Amen.
Mais c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et il ne la fait suivre d'aucun chagrin.
Oh, Seigneur.
La liste serait trop longue. Et peut-être qu'il y a au milieu de nous des gens qui pourraient en témoigner. De ceux qui ont cherché le succès dans leur projet personnel. Ils ont fait comme ils voulaient. Ils ont bradé quelques valeurs spirituelles. Ah oui, mais le Seigneur m'a dit que... Ah oui, mais tu sais que dans la parole, c'est pas écrit ça. Oui, mais non, mais le Seigneur m'a révélé. Mais c'est la conformité à la parole.
Amen.
Que Dieu honore.
Amen.
Et la liste ici et ailleurs serait bien trop longue. De citer tous ceux qui ont été un jour bénis. Le Seigneur m'a donné. Oui, c'est vrai que ça colle pas avec la parole de Dieu, mais le Seigneur m'a béni. Mais si Dieu nous parle de bénédictions qui ne s'ensuit d'aucun chagrin,
c'est qu'il y a des soi-disant bénédictions qui se suivent de chagrin. Parce que ce sont des projets qui ont été poussés par la chair. Des projets qui ont été mis en place sans se soucier de savoir si Dieu était d'accord. Et quand bien même est-ce qu'il y aurait eu des avertissements, une lecture de la parole de Dieu, un avertissement d'un frère, d'une sœur. Oh non, c'est le Seigneur qui ? C'est le Seigneur qui a ouvert les portes ? Oui, mais tu sais que c'est pas conforme à la parole de Dieu. Oui, mais moi c'est pas pareil. Combien de jeunes gens, de jeunes filles se sont mis avec des inconvertis sur ce principe-là ? Et ce sont des larmes qui coulent les années après. Pour eux-mêmes, pour leur couple, pour leurs enfants. Et ce n'est qu'un exemple, mais qui quand même doit mobiliser bien 80% des projets qui avortent. Soyons conscients que la bénédiction de l'Éternel ne se fait suivre d'aucun chagrin.
Amen.
Il y aura du combat. Il y aura peut-être la déception, humainement. Il y aura peut-être du renoncement. Mais mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Que ce soit la main de Dieu qui soit sur nos vies. Amen. Qu'importe le succès, qu'importe le résultat, c'est pas ça qui nous importe. Ce qui nous importe, c'est d'avoir la présence de Dieu, sa paix, sa joie, sa vigueur. Et quand la main de Dieu est sur nos vies, c'est sur nos familles, sur nos affaires. Amen.